Bonsoir, bonsoir à tous. Et voilà notre nouvelle émission de Parlons Patrimoine. Toujours là, toujours aussi intéressante avec des nouveaux, avec des nouveaux points de vue. Et bien sûr, l'actualité très très chargée dont on parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, on reçoit la financière de l'échiquier, donc société de gestion parisienne, très ancienne, société de gestion entre guillemets indépendante qui a fait évoluer son indépendance tout en gardant son ADN. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais tout de suite, on a Philippe Blaise et Louis Bersin. On va commencer par vous, Philippe, qui allez nous faire une petite introduction. Et ensuite, ce sera à votre tour, Louis, où vous nous parlerez plus particulièrement d'un fonds, qu'on aime beaucoup ici, qu'on a depuis très très longtemps. Peut-être même un de vos plus vieux fonds. Hormis celui qui a créé la constitution de la financière de l'échiquier, agressor dont on parle un peu beaucoup moins maintenant. Philippe, c'est à vous, on vous écoute.
Merci Bernard pour cette introduction et merci pour l'invitation. Alors je me présente rapidement, hein, Philippe Blaise, donc responsable relations investisseurs à la financière de l'échiquier. Alors comme vous le disiez, hein, société de gestion assez emblématique, hein, sur la place parisienne, a été créée donc en 1991. Quelques évolutions, hein, au fur et à mesure de la au fur et à mesure du temps. Donc c'est vrai qu'au début c'était de gestion indépendante entrepreneuriale jusqu'en 2018 où on est rentré donc dans le giron de Primonial. 2023 donc financière de l'échiquier a été acquise donc par LBPAM qui est la filiale asset management de la Banque Postale. Dans ce cadre-là, bah, on a eu certaines évolutions, hein. On a eu notamment l'absorption donc d'une autre société de gestion assez connue de la place parisienne qui s'appelle Tocqueville Finance. Donc, ce qui nous a permis donc de faire grossir considérablement nos encours, puisqu'on est passé à peu près 28 milliards d'encours sous gestion, et surtout bah, d'étoffer nos équipes et notre gamme, puisque dorénavant bah, on a une équipe quand même de gestion qui est une des plus importantes en Europe, avec quasiment 55 personnes dans les équipes de gestion, donc gérants, analystes, et une gamme de fonds assez complémentaire. Donc, puisque Tocqueville avait un biais quand même assez value, là où la financière de l'échiquier a un biais plutôt croissance. Au niveau de la gamme, on a aussi c'est une gamme qui est très étoffée, hein, donc à la base, c'est vrai que la financière de l'échiquier était vraiment très identifiée sur la partie Action France, Action européenne. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, on s'est un petit peu ouvert donc à d'autres classes d'actifs, donc notamment classes d'actifs obligataires, avec une gamme assez complète à ce niveau-là également. Une gamme, enfin des fonds, ce qu'on dit flexibles, donc avec une poche action et une poche obligataire. Et surtout, bah, on s'est exporté à l'international entre guillemets en créant donc une gamme de fonds action internationale, dont notamment le fonds Échiquier World Equity Growth, dont Louis va nous parler tout de suite. Et Échiquier World Equity Growth, bah, a été créé en 2010, donc vraiment pour s'ouvrir donc sur cette partie internationale. Échiquier World Equity Growth, c'est vraiment un fonds emblématique chez nous, hein, aujourd'hui, puisqu'il a plus d'un milliard d'encours sous gestion. Et surtout, bah, c'est un fonds qui fonctionne très très bien, qui a des très bonnes performances. Et Louis, donc, qui est gérant sur le fonds aux côtés de David Ross, va nous en dire davantage dans la foulée.
Merci Philippe. Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci pour l'invitation. Très heureux de pouvoir vous présenter ce fonds qui est vraiment devenu emblématique, hein, au sein de la financière d'échiquier. C'est le fonds le plus emblématique sur les actions internationales. C'est vraiment une histoire à succès, ce fonds qui est Échiquier World Equity Growth. Parce qu'il y a 7 ans, quand j'ai rejoint la financière d'échiquier, c'était un fonds qui avait déjà eu une certaine envolée, mais qui pesait encore que moins de 200 millions d'euros en encours sous gestion en début 2018. Aujourd'hui, on parle d'un fonds qui pèse 1,2 milliard d'euros en cours sous gestion, donc qui est devenu vraiment un peu incontournable dans le paysage des fonds actions internationales. Et cette histoire à succès, elle n'aurait pas pu être possible sans vous. Donc c'est pour cela que, au passage, je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez, car je sais que vous êtes plusieurs, comme le disait Bernard, vous êtes nombreux à être investis sur ce fonds. Donc pour rappel, ou pour ceux qui le connaîtraient moins, ce fonds qui est Échiquier World Equity Growth, il vous permet d'investir dans les champions de la croissance mondiale. On va chercher des entreprises qui vont avoir au moins 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, ça va être des entreprises qui sont très établies, qui sont en position de leadership sur leur marché, et qui sont capables de faire croître leur chiffre d'affaires d'au moins 8% par an. Donc c'est assez important, vraiment, ça réduit le spectre de manière assez conséquente, parce que comme en mathématiques et sur les marchés, bah, la loi des grands nombres, elle s'applique. Quand vous
Oui,
atteignez une...
je vais juste me permettre de vous interrompre. Donc, on a tous en tête des entreprises qui font plusieurs milliards, voire des centaines de milliards. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu deux, trois exemples de ces entreprises autour de 5 milliards, donc, pour qu'on arrive à comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la taille minimum que vous allez chercher?
Bah, celles qui sont les plus proches de 5 milliards, bon, ça va être parfois des valeurs qu'on va retrouver peut-être dans des marchés émergents. C'est la borne basse, en tout cas, de ce dans quoi on peut investir. Donc, on a par exemple des entreprises comme FEMSA, qui est un leader au Mexique dans les magasins de proximité. Donc, c'est une chaîne qui s'appelle OXXO, qui est également présente dans le reste de l'Amérique latine, mais qui a un périmètre d'action qui est un peu plus restreint que d'autres entreprises qui sont véritablement de taille mondiale et qui a donc un chiffre d'affaires qui est un peu plus proche de la borne basse que ce qu'on a en portefeuille. Là où un Amazon, par exemple, dont je vais parler plus tard, on est plutôt dans les chiffres les plus élevés qu'on a dans notre spectre d'action.
Très bien, merci. Allez-y, on continue.
Et donc, pour ce fonds, bah, alors, l'équation, elle n'est pas simple à résoudre. Comme je le disais, vous avez une taille conséquente pour arriver à continuer à croître d'au moins 8% par an. Il va falloir tout un tas d'éléments qu'on va juger sur le plan qualitatif. Ça va être par exemple des avantages compétitifs qui sont durables, des barrières à l'entrée dont peuvent jouir certaines des entreprises dans lesquelles on investit, mais aussi et surtout des méga-tendances, des tendances de long terme qui vont vraiment façonner l'économie mondiale sur plusieurs décennies. Donc c'est le cas par exemple dans le e-commerce, dans le cloud computing, l'adoption du cloud, la digitalisation des paiements, le vieillissement de la population ou la robotisation. Ce sont des tendances qui sont représentées en portefeuille et pour lesquelles on investit vraiment dans l'acteur que l'on juge comme étant le chef de file de ces activités-ci. Et donc, pour rebondir sur Amazon, qui est l'une de nos premières convictions en portefeuille, avec Amazon, vous avez à la fois le champion du e-commerce, ils ont construit une infrastructure e-commerce et logistique qui est très difficile à répliquer, et on pense qu'il y a de la place à très long terme pour que ça continue de croître. Parce qu'encore aujourd'hui, le e-commerce, ça n'est que 20% des ventes au détail mondiales, qui a encore de la place pour croître dans ce
Alors ça,
secteur-ci.
c'est intéressant. Il y a encore de la place pour croître. Quelle place vous pensez? Vous pensez que c'est possible ou même probable que dans 20, 30, 40, 50 ans, on se retrouve avec un e-commerce qui aura 70 ou 80%?
Oui, c'est possible. D'ailleurs, on voit que le e-commerce, bon, il est déjà très pénétrer dans certaines catégories, dans l'électronique, de plus en plus dans le prêt-à-porter également, mais il y a tout un tas de catégories où il est un petit peu sous-pénétré. Par exemple, dans les courses un peu plus du quotidien, on voit que ça commence progressivement à rentrer. Amazon ne propose pas encore beaucoup, en tout cas en France, ce type de service-ci, mais aux États-Unis, ils essayent de rentrer de plus en plus dans ce domaine-là, ou en tout cas au moins d'être dans un monde qui est un peu plus omni-channel, qui va combiner peut-être à la limite du digital et de la vente physique.
Vous avez des prévisions chiffrées sur ce que devrait être le poids du e-commerce dans 3 ans, 5 ans, 10 ans?
Bah, disons qu'à 10-15 ans, on est dans un chiffre de 20% qui est assez limité, qui peut facilement doubler à 10 à 15 ans. On a certains pays, par exemple la Chine, où on a des taux de pénétration du e-commerce qui sont facilement le double de ce que l'on a dans le monde. Et d'ailleurs, Amazon n'est pas présent en Chine, n'est pas présent dans ce pays qui fait partie de ceux qui ont le plus adopté cette tendance-ci. Donc il y a beaucoup plus de place dans le reste du monde. Le périmètre d'activité où se trouve Amazon.
Très bien. Allez, on vous écoute.
Et donc, Amazon, bah, c'est un champion multicatégorie. On retrouve dans l'e-commerce, certes, mais ils ont aussi une division qui s'appelle AWS, qui est le champion du monde du cloud. Un secteur là aussi qui est assez resserré sur seulement 3-4 acteurs qui vraiment contrôlent la grande majeure partie du marché, parce qu'il y a des barrières à l'entrée qui sont assez importantes, un avantage à la taille. Et Amazon, ou AWS en l'occurrence, est le leader en la matière. Et le cloud, bah, c'est intéressant, là aussi, si je peux donner un autre chiffre, parce que c'est seulement 15% des dépenses informatiques mondiales, là où vous avez tout un tas d'entreprises qui s'appuient encore sur une infrastructure informatique classique, sur site, avec des serveurs qui coûtent cher à l'achat, mais aussi cher à la maintenance. Donc si on peut flexibiliser la dépense IT des entreprises, bah, c'est plutôt bénéfique. Et c'est ce que c'est d'apporter Amazon. Deuxième dossier dont je parlais très rapidement, c'est une autre valeur du top 5 du portefeuille. Elle s'appelle Stryker. C'est une entreprise de technologie médicale qui fournit notamment, qui est notamment leader dans le domaine de la chirurgie orthopédique. Donc, ils vont faire des prothèses de genoux, des prothèses de hanches. Le patient moyen qui a recours à ce type de chirurgie, il a la soixantaine. Donc, c'est une entreprise qui, d'une manière, qui bénéficie de cette tendance au vieillissement de la population. Et c'est une entreprise qui a su introduire d'innovation sur son marché, une innovation qui lui a permis de gagner des parts de marché. Donc, dès 2014, donc il y a plus de 10 ans, ils ont introduit un robot sur le marché de la chirurgie orthopédique. Aujourd'hui, donc avec les chiffres de 2024, on sait qu'il y a 60% de pénétration des chirurgies orthopédiques du genou chez Stryker qui sont réalisées à l'aide de ce robot. Ce n'est pas un robot qui remplace le chirurgien, il vient assister le chirurgien orthopédique pour avoir de bien meilleurs résultats. Et là où c'est intéressant pour l'entreprise, c'est que c'est un robot qui fonctionne en circuit fermé. Le robot ne fonctionne qu'avec les instruments et les prothèses de Stryker. Et en face, des chirurgiens, le système de santé, il est formé là-dessus. Et en règle générale, il est assez averse au risque. Donc, il ne change pas du jour au lendemain de fournisseur. C'est cet avantage-là qui est un petit peu intangible, qui est lié à la réputation, la fiabilité, le track record de l'entreprise, qui est un avantage distinctif qu'on veut retrouver dans le portefeuille World Equity Growth.
Okay. Alors, donc si j'ai bien compris, là, vous nous avez expliqué un petit peu le long terme, c'est-à-dire la vision de l'équipe de gestion et pourquoi et comment elle pense que cette croissance et ce choix d'entreprise amènera du profit à long terme. Il y a toujours ce vieux dicton, n'achète pas une action si tu n'es pas capable de la garder 5 ans. Donc, on peut dire exactement la même chose avec un fonds, n'achète pas un fonds si tu n'es pas capable de le garder 5 ans. Et donc, pour avoir les résultats qui correspondent à ce qu'on pense, si on pense à peu près comme ce que vous venez de dire et cette vision un petit peu de l'avenir et de la croissance, donc c'est chez vous qu'il faut aller pour les 5 prochaines, pour les prochaines années. On ne peut pas éviter en ce moment de penser un petit peu au court terme, c'est-à-dire que des fois on a des périodes courtes où tout marche. C'est bon, je veux dire, vous allez voir n'importe quel fonds, n'importe quel secteur, au bout de 3 mois, tout le monde a fait plus que 10% et tout. Là, aujourd'hui, pas du tout. C'est devenu un petit peu plus compliqué. Donc, d'abord, comment tout ça se passe au niveau de la réflexion quand vous voyez un de vos titres qui fait moins 12, moins 18, moins 19? Qu'est-ce qu'on fait? On jette le stylo, on pleure, on ne comprend pas, on boit, on dit qu'un verre va nous faire du bien. Donc, comment on voit le quotidien, c'est-à-dire le moment où le choc arrive? Comment on voit qu'une valeur où on avait dit qu'on penserait qu'elle pourrait valoir 20 ou 30% de plus dans les 2-3 ans à venir, ben elle commence par valoir 20 ou 30% de moins? Est-ce qu'on réorganise un portefeuille? Est-ce qu'on met des coups de hache? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on fait venir toute l'équipe? Vous avez travaillé toute la nuit pour trouver, pour comprendre. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça se passe, tant à l'intérieur de votre équipe qu'au niveau des choix, des titres et puis aussi des résultats. Qu'est-ce que vous avez fait sur les derniers 10 jours? Qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de l'année? Enfin, cette concentration de problèmes, comment elle agit sur un gestionnaire de fonds et sur le fonds?
Alors, ça, tout va dépendre en fait de la nature de l'information qui est à traiter. Parfois, on est plus de l'ordre de la rumeur ou de va-et-vient, notamment dans l'actualité très récente lorsqu'il s'agissait de Donald Trump. Donc, on a essayé le plus possible de ne pas prendre de décision sur la base de ce que pourrait ou ne pas faire le président américain, sachant que c'est vraiment des va-et-vient qu'on voit et qui causent énormément de volatilité sur les marchés. Par contre, lorsqu'on a un élément qui soit va remettre en question la thèse d'investissement de l'entreprise, par exemple, Adobe, donc la société de logiciels américaine qu'on avait en portefeuille à une époque, du jour au lendemain, ils étaient très disciplinés sur leurs acquisitions. Du jour au lendemain, ils ont annoncé une acquisition avec des montants faramineux sur une entité qui s'appelle Figma. Ça a changé la thèse d'investissement pour nous. On a sorti la valeur à ce moment-ci. Ça peut être dans un autre registre, parfois un changement de paradigme, mais j'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard aussi. C'est le fait de pouvoir se repositionner en temps et en heure, ça a été un élément qui a été vraiment déterminant sur ce portefeuille. Par exemple, début 2021, on était très exposé à la Chine, voyant qu'il y avait d'une part un certain enthousiasme du marché sur cette économie, mais d'autre part des voyants qui commençaient à passer à l'orange, voire au rouge vif. On n'a pas hésité à sortir totalement notre exposition à la Chine début 2021 pour des raisons qui étaient un peu plus macroéconomiques que microéconomiques. Donc tout dépend de la nature. Lorsque ça relève plus du bruit, de la rumeur, on essaie de rester serein et stable. Lorsqu'on a des changements de paradigme, on n'hésite pas à agir de manière assez importante.
D'accord. Et alors là, prenons quelques exemples. Bon, ben, la manière dont vous gérez, la manière dont est organisée la gestion, vous avez toujours très peu de cash, n'est-ce pas?
On a peu de cash, en règle générale, on tourne à 2, 3, voire 4% grand maximum de cash sur ce portefeuille.
Ça veut dire que comme peut le faire un particulier et profiter d'un trou pour faire des achats massifs, pour vous, c'est pas possible, c'est jamais possible. Vous pouvez un petit peu acheter. Ce que vous pouvez faire, c'est des arbitrages massifs, c'est ça?
On peut faire ça. Après, ça nous arrivait dans certains moments où on voyait un peu plus de volatilité, de monter plus autour de ces 4%, par exemple. Et à 4%, bah, vous avez la capacité d'agir, de faire rentrer une nouvelle valeur en portefeuille assez rapidement. Et à ce sujet, on a pu être assez contrariant. Toute fin 2024, par exemple, on a fait rentrer Uber en portefeuille à un moment où le marché n'y croyait plus vraiment. Il y a eu l'élection de Donald Trump, il y a eu Elon Musk qui était sur les devants de la scène avec son service de robotaxi. Nous, on a jugé que les craintes étaient exagérées. On est allé sur ce dossier, c'est l'un de nos meilleurs dossiers depuis le début de l'année en 2025.
D'accord. Alors justement, si on parle depuis le début de l'année, là, il nous reste 2 minutes. Vous faites quoi comme résultat depuis le début de l'année?
Alors, sur les performances arrêtées à fin mars, le fonds, il est à moins 7%. Il est légèrement en deçà de son indice qui est à moins 5,4%, mais il est au-dessus de sa catégorie Morningstar qui est à moins 7,7%. Ça a été un environnement qui a été assez chahuté depuis le début de l'année, pour des raisons qu'on connaît, hein, liées à Trump, mais aussi liées peut-être quelque part à une certaine fébrilité sur le plan macroéconomique. Il y a eu certaines ventes qui ont été peut-être un peu indiscriminées, ce qui fait qu'on se retrouve avec un niveau de valorisation. Sur ce portefeuille, en tout cas, qui est parmi les plus bas sur l'historique du fonds. On tombe dans les 22-23 fois les bénéfices 2025, là où la moyenne historique du fonds est plutôt à 25,5. Donc on est plutôt en borne basse, là où les fondamentaux intrinsèques des valeurs qu'on a en portefeuille restent inchangés, restent très forts. Et en règle générale, on a, même sur le T4 2024, ça s'est poursuivi, on a 3 fois plus de croissance, aussi bien sur le chiffre d'affaires que sur la croissance des bénéfices, 3 fois plus de croissance sur nos valeurs en moyenne que sur notre indice de référence qui est le MSCI All Country World Index.
Alors, dans un moment comme celui qu'on passe, qu'on a passé, je pense qu'on est toujours dedans, on a aussi un impact devise qui est très très fort. Donc, quand on est sur un fonds monde, automatiquement, l'euro est très faiblement représenté. Donc, on peut avoir le choix de couvrir, de ne pas couvrir, de toujours couvrir, de décider ligne par ligne. Quelle est la politique que vous avez adoptée?
C'est une bonne question. C'est une question qui revient d'ailleurs assez souvent auprès de nos clients. Nous, notre politique, c'est de ne pas couvrir la devise. Pourquoi? Parce que d'un côté, bon, on a une bonne représentation du dollar, bien évidemment, qui en règle générale, d'ailleurs, s'est comporté plutôt comme un actif plutôt défensif. On a investi dans des actifs risqués que sont les actions. Le fait qu'elles soient libellées en dollars, historiquement, c'était plutôt réducteur de volatilité puisque le dollar a eu tendance, historiquement, à plutôt se bien comporter lors des phases de marché difficiles. Face à ça, on a d'autres devises. Certes, on n'est pas très représenté sur l'euro, mais sur des devises émergentes, par exemple, qui vont avoir un comportement qui vont être à l'opposé de ce qu'on a sur le dollar, bien évidemment, parce que beaucoup d'économies émergentes dépendent, en tout cas bénéficient d'une faiblesse du dollar. Et c'est là où ça va souvent contrebalancer un petit peu les effets qu'on peut avoir sur le dollar. Et notamment depuis le début de l'année, parmi les effets devises les plus positifs qu'on a, bon, on les a sur des marchés émergents. C'est le cas notamment au Brésil, c'est un de nos meilleurs contributeurs sur la devise. Le Mexique aussi commence à plutôt bien se défendre. Et sur l'actualité récente, on a vu que la zone Amérique latine, qui est assez bien représentée dans le portefeuille, elle a été parmi celles qui sont les plus épargnées du point de vue des tarifs douaniers qui ont été annoncés aux États-Unis.
Est-ce que vous avez un suivi régulier, je vais peut-être pas dire au jour le jour, mais en tout cas très régulier, de savoir si la devise, vous a fait perdre des points ou vous a fait gagner des points?
On fait attention à cela. Après, à long terme, et en règle générale, le principal moteur de performance, c'est vraiment la sélection de valeurs. Mais sur la devise, bah souvent, elle va être combinée à notre analyse, notamment dans les marchés émergents, où là, vraiment, ça va s'imbriquer un peu dans notre analyse du marché local. Bah bien souvent, sur des économies comme le Mexique ou le Brésil, la performance locale du marché, elle va aller de pair avec la performance de la devise. Souvent, lorsque le marché mexicain ou marché brésilien se porte bien, l'économie se porte bien, ben la devise se porte bien aussi. Donc ça va être imbriqué dans notre thèse d'investissement, l'effet devise de notre thèse d'investissement sur ces marchés en particulier.
OK. Merci beaucoup tous les deux pour votre intervention. C'était la financière de l'échiquier, le fonds Échiquier World Growth Equity. Et maintenant, on va passer à l'édito. Vous restez bien entendu tous les deux avec nous et vous allez pouvoir réagir sur cet édito. Malheureux celui par qui le scandale arrive, Évangile de Saint Matthieu. Il a un nom et il s'appelle Trump. Il a décidé de refaire de l'Amérique une puissance industrielle. Et on ne va pas lui en vouloir, il est président de cette même nation. Il le fait à sa façon, passage en force, on verra bien ce qu'il en sort. Et de toute façon, il se dit que, vu d'où il part, ce ne sera pas difficile de gagner un point de part de l'industrie dans le PIB américain. L'Amérique est une puissance militaire, c'est un fait. Une puissance économique, c'est une certitude. Une puissance technologique, nous le voyons tous les jours, et l'industrie était à la traîne. On va juste rappeler que la destruction de l'industrie américaine a permis à l'oncle Sam d'en finir avec l'inflation et de s'enrichir considérablement. Maintenant qu'ils ont eu l'argent du beurre, ils veulent maintenant récupérer le beurre. Pour ce faire, il a fait exploser les droits de douane. Il avait promis, et c'est une promesse sacrément tenue. Les marchés en ont profité pour baisser. De toute façon, il fallait qu'ils baissent. Personne ne savait quand, mais tout le monde savait que ça allait se passer. À noter que l'oracle d'Obama, encore une fois, avait senti le vent venir, et c'est pourquoi nous avons mis en avant son titre, Berkshire Hathaway. Malheureusement, il n'est pas disponible chez Generali. C'est également une des raisons pour laquelle nous mettons en avant l'assurance vie luxembourgeoise, où on peut l'acheter sans problème. Que va-t-il se passer maintenant? Personne ne le sait, mais les marchés ne remonteront pas sans une solution. Est-ce qu'on va avoir une baisse dure et profonde sans fin, des hauts, des bas pendant un moment? Là encore, c'est impossible à prévoir. Ce que l'on voit et que l'on sent venir, c'est une baisse du dollar et un ralentissement économique, au moins pour quelques mois. Les taux vont-ils baisser et nous amener une bouée d'oxygène? Rien n'est moins sûr. La hausse des droits de douane pourrait apporter de l'inflation. Cela pourrait également entraîner une fragilisation de la dette émergente. Comme vous le voyez, rien de réjouissant. Pour reprendre le langage des années, un peu comme Trump, on est dans la merde. Rassurez-vous, on va en sortir. Quand? Je ne sais pas, mais les choses devraient se passer ainsi. Tout d'abord, il faut savoir qu'il est impossible de réimplanter aux US toutes les usines qui ont fermé. En revanche, il est tout à fait possible de diminuer le déficit américain en forçant les pays exportateurs aux US à acheter un peu plus aux US et ainsi à contribuer à réduire le déficit ou à investir plus aux US. L'exemple des voitures japonaises, beaucoup sont fabriquées en Europe et aux États-Unis. La stratégie de Trump est en train de fonctionner. Israël va enlever tous les droits de douane sur les produits US. Taïwan ne va pas répliquer. Et des investissements lourds aux États-Unis dans les années à venir sont prévus. Les deux gros morceaux sont l'Europe et la Chine. Les choses vont se calmer et rentrer dans l'ordre. Ce sera à l'avantage des États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont le plus gros client. Et on ne se fâche pas avec un premier client, on trouve des solutions. Sur le plan boursier, deux conseils. On n'achète pas une valeur dans un marché si on n'est pas capable de la garder 5 ans. On n'essaye pas de rattraper un couteau qui tombe. Cela veut dire que ce qui est fait, et que maintenant il faut attendre un début de solution pour revenir et se renforcer. Pas avant. Un petit clin d'œil aux produits structurés, ils sont en train de morfler et la prochaine vague devrait être alléchante en termes de conditions, vu l'augmentation des taux et de la volatilité. Je termine sur une note politique à titre exceptionnel. D'habitude, on ne parle pas politique. La Chine a montré qu'elle était prête à se battre, alors qu'en 2018, elle avait plutôt fermé sa bouche et négocié. Cela me fait dire que nous allons revenir dans un monde où deux camps s'affronteront et les autres devront s'aligner ou faire semblant d'être des non-alignés. À la différence du face-à-face entre l'Est et l'Ouest, la Chine a une capacité de production supérieure aux États-Unis et pour l'instant une capacité militaire nettement inférieure. Et tout ce que nous appelons droit, les droits, nos droits, ils s'en contrefichent. Est-ce une ère nouvelle qui commence? J'en suis convaincu. Et comme toujours, David, vous choisissez un petit point, vous piquez une idée. Piquez une idée plutôt avec laquelle vous n'êtes pas d'accord. Si malheureusement vous êtes d'accord avec tout, piquez une idée avec laquelle vous êtes d'accord et on commence à en parler. Faut mettre votre micro, David.
Voilà,
Super.
c'est ça, c'est ce que j'avais oublié. Bonjour Bernard. Écoutez, bah, je vais prendre une idée avec laquelle je ne vais pas être d'accord. Vous me dites, c'est une nouvelle ère. Une ère, c'est quelque chose qui dure très longtemps. Et moi, quelque chose me dit que ce sujet-là, il va durer tant que Trump est là. Et je me demande même si ça va pas durer tant que Trump ne se fait pas rattraper par la patrouille. Alors, c'est qui la patrouille? En fait, sur les marchés financiers, on a un outil qui est merveilleux. Ce sont les taux d'intérêt. Et quand je parle des taux d'intérêt, je parle des taux d'intérêt à long terme. Je ne parle pas des taux d'intérêt à court terme, parce que les taux d'intérêt à court terme, ils sont décrétés par la Banque centrale. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez décider. Les taux d'intérêt à long terme, c'est très compliqué à influencer. Et donc, c'est vraiment l'expression du marché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Angleterre, il y a une première ministre qui va rester célèbre parce qu'elle est restée en poste que 45 jours, c'est Liz Truss. Et pourquoi elle a sauté, cette dame? Elle a sauté parce qu'elle avait annoncé un programme financier budgétaire qui était complètement déraisonnable. Le marché, du coup, s'est dit, oulala, si ça s'est mis en place, c'est horrible, on va y avoir de l'inflation à tout craint, etc. Les taux d'intérêt à 10 ans, 20 ans, 30 ans ont explosé à la hausse. Les fonds de pension ont appelé l'État en disant, bon, ben nous, là, on va bientôt faire faillite, donc que se passe-t-il? Et cette première ministre britannique a démissionné. Voilà. C'est d'histoire pas si ancienne que ça, mais je permets de le remettre là en place parce que je me demande si ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était pas un peu le moment Liz Truss de Donald Trump. C'est-à-dire que il a fait des annonces. Alors bien entendu, tout le monde veut sortir la tête haute. Donc en Europe, on dit qu'il y a eu volte-face, mais aux États-Unis, on dit que tout était prévu. Mais je me demande si la contre-annonce de Donald Trump, quand il a fait demi-tour et qu'il a dit non, mais en fait, c'est pas ce que vous croyez, on va prendre 90 jours pour réfléchir, ça correspondait pile au moment où les taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis venaient de prendre à peu près 70 points de base en ligne droite. Et je me demande si à ce moment-là, voilà, il n'y a pas eu une force de rappel qui finalement a entraîné sous un autre a entraîné Donald Trump sur des choses un petit peu plus raisonnables. Voilà.
Alors,
Donc,
si je vous résume, la patrouille
c'est les marchés.
attraper Trump, et il n'y aura pas de nouvelle ère, c'est
Ça risque
l'ère qui
d'être plus
continue.
court. Voilà. Ça risque d'être plus court que prévu. Mais je me
D'accord.
demande, voilà.
OK, allez, on a Lucas Bozo de Wellins qui nous a rejoint. Donc, Lucas est le responsable des marchés du Sud, Portugal, Espagne et Italie pour la compagnie d'assurance Wellins. Et aujourd'hui, il remplace Maël, ou il vient plutôt en renfort de Maël avec un regard nouveau, avec autre chose. Lucas, la même question pour vous. Dans l'édito, piquez une idée, piquez un concept, de préférence un avec lequel vous n'êtes pas d'accord, et développez, dites-nous pourquoi. Ou si vous voulez rebondir sur ce qu'a dit David, à votre guise.
Ah bah moi je vais rebondir oui sur ce qu'a dit David. Donc effectivement après la question c'est de savoir combien de temps va durer l'ère par rapport à ça. Il y a quand même des facteurs qui sont extrêmement inquiétants. On a alors c'est ce qu'on voit, on a quand même des similitudes aussi par rapport à des périodes sombres de l'histoire. Et donc voilà, il y a une forte inquiétude de la part des gens, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue territorial aussi. On a aussi des démocraties qui patinent et donc aussi des attirances aussi pour des systèmes totalitaires. On a aussi des formes de communication qui ressemblent beaucoup à de la propagande. Donc c'est des choses qui sont inquiétantes et on sent vraiment à notre niveau une inquiétude des gens qui sont un peu perdus par rapport aux investissements et donc une volonté très forte de sécuriser l'épargne. Et donc ça, c'est ce qui est ressenti beaucoup en ce moment au Luxembourg et également évidemment sur la partie assurance vie que je représente.
D'accord. Et depuis que Trump est vraiment venu tout bousculer et que d'une forte hausse des marchés après son élection, on est passé à une forte forte baisse des marchés après ces déclarations. Vous avez perçu un changement dans l'épargne à Luxembourg, un changement dans les flux, ou alors un changement, on sort des actions, on revient vers les obligations? Est-ce que quelque
Alors,
chose est perceptible ou pas plus que ça pour l'instant?
pour le moment, il y a quand même on ressent quand même une volonté de sécurisation, effectivement. dans les stratégies d'investissement. Donc, on a quelques demandes par rapport à ça. Après, il y a beaucoup quand même de demandes. Alors, avec le contexte international et avec le contexte aussi en France, qui peut y avoir de demandes de gens qui veulent absolument placer leur épargne à l'étranger. Donc, ça c'est une très, très forte demande. Et on le voit sur la place luxembourgeoise. Voilà, ça va être encore une année où il y aura une année record en termes de collecte. Ça, c'est clair.
Très bien, ben on vous souhaite que ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite de faire une année record en termes de collecte. Allez, Louis, on revient vers vous. La question reste la même. Piquez une idée, de préférence une avec laquelle vous n'êtes pas d'accord ou réagissez sur un des propos déjà dit.
Oui, alors moi ce que je trouvais intéressant et peut-être aussi, et ça nous permet de parler un petit peu du repositionnement qu'on a pu faire depuis ce début d'année, c'est que en fait c'est le timing de toutes ces annonces de Donald Trump. En réalité, ça se produit à un moment de fébrilité relative de la macroéconomie mondiale. On était encore dans une phase de digestion du cycle de hausse des taux. En général, vous savez, les actions macroéconomiques sur les plans monétaires ou fiscaux, souvent elles prennent du temps avant d'être reflétées dans l'économie, et notamment les actions monétaires. Bah, souvent vous allez attendre peut-être un an et demi avant que ça se reflète véritablement dans l'économie réelle. Donc, sachant que les annonces de coupe de taux aux États-Unis, elles se sont faites plutôt sur la deuxième partie 2024, bah là, en ce début 2025, l'économie réelle, elle était encore en phase de digestion d'un marché qui était un peu restrictif sur la partie monétaire. Et donc, il l'annonce à ce moment-là. Et nous, ce qui nous a rendu vigilants, bah, c'est le fait d'ajouter cette incertitude dans un marché qui est relativement fébrile. Donc, ce que l'on a fait, nous, sur nos stratégies, c'est continuer d'investir sur un positionnement qu'on avait déjà sur des valeurs de croissance défensive et des valeurs de croissance séculaire de long terme, en mettant un peu plus le paquet, d'ailleurs, sur les valeurs défensives, notamment dans le secteur de la santé, en ayant remonté certaines valeurs comme Stryker, dont j'ai parlé plus tôt, ou encore Thermo Fisher.
Vous êtes en train de nous dire que vous devenez un fonds value?
Non, pas du tout. Un peu plus défensif, en tout cas, dans le contexte actuel, mais à l'inverse, il y a quelques signaux d'espoir quand même, qui sont de dire qu'on a enclenché un cycle de baisse des taux quasi généralisé, qui devrait se faire ressentir peut-être
Là, on
d'ici la
parle des
fin
taux courts, on est d'accord?
des taux courts, oui. Et en plus de ça, vous avez la Chine qui a commencé elle aussi sur un timing plutôt de début de la deuxième partie de 2024, fin de l'été 2024, qui a commencé à relancer son économie. Donc là aussi, il y a un des poumons de la croissance mondiale qui, certes, peut-être va se retrouver un peu désynchronisé par rapport à l'Amérique, mais qui, lui, historiquement, nous a quand même aidé à redémarrer sur l'économie mondiale, qui commence à restimuler son économie.
D'accord. Et votre point de vue et votre position sur les taux longs?
Bah, sur les taux longs, alors ce qui est intéressant, ce que disait David, c'est que Trump, au final, il l'a révélé, hein, il l'a dit très clairement, hein, quand il a fait son annonce à volte-face, il a dit: je surveillais le marché des taux, il surveillait les fameuses enchères de titres 10 ans américains qui allaient être mis en place sur le marché et voir si ça se passait bien. Donc il faisait très attention à ça. Le souci étant pour les États-Unis que les grands détenteurs de la dette américaine, bah, ce sont des pays comme le Japon, comme la Chine, ce sont les deux plus gros détenteurs. Donc il ne faut pas spécialement se fâcher avec eux parce que s'ils se mettent à vendre massivement la dette long terme américaine, ben ils vont faire pression sur le marché pour que ces taux remontent. Donc, c'est vrai, comme disait David, il y a des garde-fous qui sont en place, qui font que Trump ne peut pas, ne devrait pas trop déborder sur les annonces qu'ils font, et fort heureusement, ben, qu'il est rattrapé par la patrouille.
D'accord.
Donc, on pense que sur les taux, on est sur un régime qui est plutôt élevé. Il y a une interrogation sur le déficit fiscal américain qui fait qu'on a des taux quand même un peu plus élevés que d'habitude. Mais au-delà de ça, bah, l'économie mondiale et les États-Unis, même, ça commence à être un peu plus fébrile. L'inflation aussi a eu tendance à redescendre, même si le choc des droits de douane à court terme fait augmenter l'inflation. Si vous avez un choc sur la demande, bah, ça devient un choc déflationniste. Donc, sur cette partie-ci, bah, ça devrait militer dans le sens d'une baisse plutôt des taux longs sur le choc que vous pouvez produire sur l'économie mondiale.
D'accord. Philippe, une réflexion, une interrogation, quelque chose à dire, un point sur lequel vous êtes en désaccord, un point sur lequel vous avez envie de démarrer une discussion?
Non, mais je trouve que c'est important dans le contexte actuel où ça bouge quand même, ça bouge très vite. Hein, on voit une volatilité très très importante d'être positionné sur un fonds. Bah, alors, évidemment, je prêche un peu pour ma paroisse, mais un fonds comme Échiquier World Equity Rose, parce que c'est un fonds qui est, enfin, je pense que le plus gros avantage concurrentiel de ce fonds-là, c'est vraiment sa concentration et sa mobilité. Et en fait, c'est un fonds bah, qui peut se repositionner très rapidement. Sur certaines valeurs, augmenter les pondérations de certaines valeurs. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'équipe de gestion dont il fait partie là, récemment, et de manière et, voilà, sur des valeurs plus défensives. Alors, tu parlais de value, on n'est pas vraiment sur des positions value à 23 fois les résultats, mais c'est vrai qu'aller pouvoir se positionner sur des valeurs plus défensives et plus sur de la croissance séculaire. C'est vrai que dans des moments comme ça, c'est quand même assez important. Moi, après, ce qui m'interroge quand même de manière peut-être plus personnelle, c'est l'impact de la politique de Donald Trump sur les marchés, parce qu'en fait, c'est sa politique un petit peu de tout temps. C'est-à-dire que il aboie très fort et derrière, bon, c'est pas forcément suivi des faits. Aujourd'hui, je trouve que l'impact est très important et donc réagir dans des moments comme ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Voilà, les flux qui ont été analysés donc par Lucas chez Willins, c'est vrai qu'on les voit aussi en France, hein. Il y a beaucoup de positions actions qui sortent. On voit que depuis plus de 2 ans, les acteurs sont, enfin les investisseurs sont quand même très risk off et ont jeté leur dévolu sur les stratégies obligataires, sur des produits structurés. Et c'est vrai que les fonds actions sont un peu délaissés dans ce contexte-là. Et je pense que voilà, un contexte comme aujourd'hui, bah, n'est pas forcément favorable au retour des flux sur les actions.
Et pourtant. Alors, le point que je voulais aborder, le deuxième point que je voulais aborder, Trump, en fin de compte, ce qu'il a dit, il a dit clairement, ce qu'il veut, c'est remettre de l'industrie aux États-Unis. Aujourd'hui, le poids de l'industrie américaine dans le PIB, c'est 17%, à peu près, hein, tous les chiffres sont à peu près. 17%, c'est à peu près le même chiffre qu'en France. Si on regarde l'Allemagne, qui peut être aussi un objectif pour les États-Unis, c'est 22. La Chine, on est au-delà de 30, donc n'en parlons même pas. Donc le chemin qu'aimerait bien faire Trump, et d'ailleurs c'est le même chemin qu'adorerait faire Macron aussi, hein, c'est de repasser de 17 à 22 et de réindustrialiser, de refaire de l'industrie. Pour ce faire, il a lancé donc cette offensive de droit de gang, entre guillemets, cette blitzkrieg qui a même pas duré une semaine. Et on a trois catégories, de mon point de vue. On a les petits pays qui n'ont pas vraiment le choix. Qui n'ont pas vraiment le choix. Donc, ils doivent lâcher quelque chose tout de suite et vite. On le voit bien. Comme je l'ai dit dans des édito, Taïwan a dit qu'il répliquerait pas. Israël a annulé les quelques droits de douane qu'il y avait. Ils ont en même temps dit qu'ils allaient investir aux États-Unis et créer des emplois aux États-Unis de leur société. Je pense qu'on a la même chose avec le Vietnam, le Laos. Bon, tout ça, ce sont des petites choses. Et c'est tout simplement des pays qui ont pas le choix parce que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Il va falloir s'arranger. Donc ça, on va dire, c'est réglé. C'est l'administration américaine qui va s'en occuper maintenant. Avec l'Europe, on sent bien le coup. Ce qu'il veut jouer avec l'Europe, c'est dire, bon, allez, OK, on arrête tout, vous acceptez 10% sur vos produits et moi, vous me mettez zéro. Comme ça, vous me redonnez un petit avantage, il criera victoire, j'amène de l'argent. Et par derrière, il va aller convaincre les industriels un par un en leur disant… Chez nous, le gaz, c'est moins cher. Chez nous, l'énergie, c'est moins cher. Chez nous, les frais, c'est moins cher. Chez nous, les taxes, c'est moins cher. Chez nous, ci, chez nous, ça. Et essayer de faire venir ces industriels, créer des nouveaux sites. Et d'ailleurs, les industriels sont assez favorables à ça et sentent qu'il y a une stabilité économique, une stabilité politique et une stabilité dans le regard qu'on a sur l'industriel. Plus favorable aux États-Unis qu'en Europe, surtout quand on n'est pas une industrie ultra propre. On va aussi laisser de côté ça parce que je pense que on pourrait en discuter des heures et voilà, j'ai un point de vue, vous pouvez avoir des points de vue différents. Ce qui m'intéresse, c'est la Chine. La Chine, il a dit je vous mets 100, elle a dit je vous mets 80, il a dit je vous mets 125, elle a dit je vous mets 100. On voit bien qu'aucun des deux a l'intention de céder, qu'ils vont devoir s'affronter. De toute façon, ils vont devoir trouver des solutions parce que autrement, c'est l'iPhone à 17 000 dollars dans les boutiques et des choses comme ça, enfin, dont on ne se rend même pas compte. Mais un matériel de construction qui coûte le double, ça peut faire monter le coût de la construction de 8, 9 ou 10% et ça peut remettre en péril toute une économie. Donc là, je voudrais qu'on utilise quelques minutes avant le point marché de David, juste sur ce rapport US-Chine. Comment est-ce que vous pensez qu'il peut tourner? Comment est-ce qu'il pourrait trouver un accord? Je vais vous passer la parole à Louis d'abord qui va nous dire ça. Ensuite, Lucas Et Philippe, très rapidement, David, vous conclurez, vous démarrerez sur l'édito après. Donc, Louis, s'il vous plaît, vous en pensez. Comment est-ce que vous imaginez ce rapport US-Chine dans un temps assez court pour trouver une solution, parce que la solution est urgente?
C'est une véritable désynchronisation à laquelle on assiste, mais qui était déjà en vérité mise en place sur les marchés. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on voit une désynchronisation sur le plan boursier des actifs chinois vis-à-vis du reste du monde et vis-à-vis en particulier des actifs américains. Personne ne cédera, je pense, enfin en tout cas la Chine ne cédera pas. C'est vraiment le message qu'ils ont envoyé. Je crois que récemment ils ont diffusé des vidéos de Mao à l'époque de la guerre de Corée, disant que à cette époque-ci, il disait les seules personnes qui savent quand la guerre de Corée s'arrêtera, ce sont les États-Unis. Pour dire en gros, nous, on ne cédera jamais et seuls les États-Unis peuvent arrêter cette guerre. C'est un petit peu, voilà, le timing, le fait de sortir ça maintenant, ça donne un petit peu le son de cloche et qui donne l'impression qu'on va donc de plus en plus vers une désynchronisation, à moins que l'administration Trump ne change. On ne peut pas exclure ce scénario-ci vu les va-et-vient qu'on retrouve de leur côté, mais en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est ce à quoi on assiste. Du point de vue des petits pays, là, ça résout quelques soucis quand même pour les Américains, parce que le Vietnam, par exemple, qui est un pays qui a émergé de manière très significative hein, depuis qu'il y a ces relocalisations des chaînes d'approvisionnement, c'est l'option numéro un qui est envisagée lorsqu'on sort de Chine, c'est relocaliser au Vietnam. Bon, il y a toujours une question qui se pose, c'est est-ce que vous avez véritablement relocalisé ou est-ce qu'on est sur un hub de réexportation de denrées chinoises? Ça, c'est le questionnement qu'on a un peu partout. Je ne sais pas s'il y a un moyen vraiment de résoudre ça et d'inspecter lorsqu'un pays inspecte un autre pays. C'est le genre d'élément qui crée énormément de confusion. Donc, de notre
Allez,
point de vue.
je vous interromps là parce qu'on va trop dépasser le temps, mais si je prends la punchline que vous avez dit, de votre point de vue, les Chinois ne céderont pas, c'est ça?
Exactement.
Allez, Philippe, vous voulez rajouter quelque chose, dire quelque chose?
Assez aligné par rapport à ça. Après, je pense qu'il y a des entreprises aussi qui vont mettre en place voilà, des politiques de réexportation, notamment on l'a vu avec Apple, hein, qui commençait déjà à partir à repasser par l'Inde pour après réexporter aux États-Unis. Et je pense que il faut quand même garder en tête que ces deux blocs-là vont devoir s'entendre à un moment, mais pour l'instant, c'est pas du tout le sujet qui est sur la table.
Allez, Lucas, la même question. Donc, sur le rapport entre la Chine et les États-Unis, comment vous voyez évoluer les choses à court et moyen terme?
Déjà, c'est un rapport de force que Trump avait engagé lors de son premier mandat, puisque vraiment, il avait engagé contre la Chine à ce moment-là, il les avait mis dans le viseur. Et là, aujourd'hui, ouais, il y a ce rapport de force. Effectivement, je suis d'accord avec ce qui avait été dit sur le fait que la Chine ne cédera pas. Et en plus, la Chine a les moyens de pas céder. C'est-à-dire qu'à la fois, sur ce qu'on a dit, c'est un fournisseur. Donc, c'est l'iPhone à 17 000 dollars où ça peut poser effectivement un vrai problème. Et puis aussi, ce qu'on a évoqué aussi, c'est que la Chine, elle a la dette américaine entre les mains aussi. Donc clairement, elle va pas céder. Et là-dessus, il y a une vraie incertitude par rapport à ça. Donc, on va voir si Trump, comme il l'a fait aussi avec l'Europe, il va y avoir un revirement par rapport à ça. Mais ce qui est fort probable aussi.
D'accord. Allez, David, c'est vous qui concluez là-dessus. Donc peut-être sur ce point important que Lucas nous a dit, donc la dette américaine est entre les mains de la Chine, mais quand on doit vraiment autant d'argent, allez savoir qui est entre les mains de qui vraiment. Allez, David, on vous laisse
Non.
conclure là-dessus et démarrer votre édito.
Oui, effectivement, je pense que là, on est dans le jeu des postures. À la fin, il y aura une négociation, bien entendu. Faut pas oublier, on a parlé de beaucoup de choses sur la Chine. Je rajouterai deux choses. Les terres rares, qui sont indispensables et qui sont encore extrêmement localisées en Chine. Et si on pousse un peu trop la Chine dans ses retranchements, n'oublions pas que le premier fournisseur mondial de semi-conducteurs s'appelle Taïwan Semiconductor. TSMC. Et ça pourrait finalement être une occasion comme une autre pour réaliser le grand rêve de la Chine de remettre la main sur Taïwan. Enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que si on en arrive là, ça deviendra extrêmement compliqué. Bien. Eh bien, écoutez, on attaque sur la chronique des marchés.
Allez.
Je suis. Déjà ravi d'avoir survécu à cette semaine hallucinante sur les bourses mondiales et de pouvoir faire cette chronique des marchés. Les superlatifs manquent un peu pour décrire la période de montagne russe que nous venons de traverser. Les variations ont été tellement fortes et tellement rapides que je pense qu'il est important de commencer par faire un point sur les performances des différents marchés depuis le début de l'année pour redonner un cadre à nos auditeurs. Ça a bougé dans tous les sens. À aujourd'hui, on en est où? On va commencer par les marchés américains. Le S&P, depuis le début de l'année, est en baisse de 9%. Mais ça, c'est pour les Américains. Si vous êtes basé en euros, c'est moins 16% que vous devez encaisser, puisque à la baisse du marché américain s'additionne la baisse du dollar. L'Eurostoxx 50, qui avait eu un début d'année tonitruant, bon, bah aujourd'hui, on est à moins 2. Le Japon, moins 10%. Sur les taux d'intérêt et le marché des obligations, l'image n'est pas tellement plus belle avec tout le marché du crédit et en particulier le high yield qui est en baisse. Finalement, depuis le début de l'année, il n'y a que les mines d'or et les obligations de bonne qualité de la zone euro qui restent dans le vert. C'est un sacré contraste avec 2024. Une seule bonne nouvelle dans tout ça. Plus personne ne parle de surévaluation des marchés actions et à juste titre puisqu'ils traitent tous en valorisation en dessous de leur moyenne des 5 dernières années. La grande surprise de la chute de ces derniers jours, c'est que les emprunts d'État américains, l'actif refuge par excellence, n'ont pas du tout joué leur rôle de refuge. En effet, les investisseurs ont intégré assez rapidement l'inflation qu'allait subir le pays si les droits de douane étaient maintenus. Les taux d'intérêt américains se sont envolés, entraînant mécaniquement une chute des prix des emprunts d'État. Alors, je ne m'acharnerai pas aujourd'hui à tenter de prévoir si les droits de douane seront appliqués en partie, en totalité ou pas du tout. La conclusion de tout cela, c'est que quelque chose de grave a été brisé. La confiance des investisseurs. Un élément clé nous a été retiré, la visibilité. La disparition de ces deux éléments milite pour le maintien de valorisation plus faible que par le passé et d'une prime de risque plus élevée. Jusqu'à quand? Probablement jusqu'aux élections de mi-mandat aux États-Unis, c'est-à-dire à l'automne 2026. En effet, à l'approche de ces élections, Trump devra faire le nécessaire pour montrer aux Américains qu'ils ont bien fait de voter pour lui. Un des éléments importants sera le niveau du S&P 500, car la sensibilité du consommateur américain au marché actions est grande. Pour nous, Européens, il faudra se méfier d'une chose, l'évolution du dollar. De notre point de vue d'investisseur, la performance que nous aurons sera celle des actions américaines et celle du dollar. Rien ne nous dit qu'elles seront dans le même sens. Affaiblir sa devise, c'est un très bon moyen pour stimuler son économie. N'oublions pas non plus qu'un dollar faible, c'est de l'inflation. Et l'inflation, lorsqu'on a beaucoup de dettes, mais vraiment beaucoup, beaucoup de dettes, c'est la manière la plus souple de faire défaut. Voilà, je vous ai livré ma vue sur les marchés, pas mal de thèmes sur lesquels on peut discuter. Celui de l'inflation aux États-Unis, est-ce que ça serait finalement le moyen de rembourser la dette la plus simple? Et finalement, est-ce que affaiblir le dollar, c'est pas en fait d'aller jusqu'au bout de la logique America first?
Alors, j'ai noté comme ça quelques mots-clés, inflation, confiance, visibilité. Bon, il y a plein de choses à, il y a plein de choses à dire, j'aimerais parler de tout. Et je vais juste parler de ce couple confiance-visibilité. Je suis à moitié d'accord avec vous ou à moitié pas d'accord, c'est à vous de décider. Pour la visibilité, je suis d'accord, c'est fini. Voilà. On a un homme qui prêche par la non-visibilité. Donc, c'est pas compliqué. Il est monté dans la voiture, il a pété les essuie-glaces et c'est comme ça et on va faire avec. Pour la confiance, non, je pense pas. Je pense que la confiance, elle est restée. L'Amérique est une grande nation. Donc, le monde a confiance dans l'Amérique. L'Amérique change, l'Amérique va d'un endroit à un autre, elle bouge. Aujourd'hui, elle est un peu plus isolationniste, un peu plus républicaine. Mais enfin, vu comment il est en train de se mêler d'à peu près tout dans le monde, il n'est pas si isolationniste que ça. Vu qu'il a menacé les Iraniens d'attaquer si une solution n'était pas trouvée, il n'est pas non plus autant indifférent que ça à ce qui se passe dans le monde comme il avait pu le dire. Et donc, on a confiance parce qu'on sait que qui connaît l'économie, qui veut le pouvoir, que Vance derrière adorerait le garder pendant 8 ans après le mandat de Trump et qui va essayer de trouver des solutions pour en sortir. Donc voilà ma mini conclusion sur votre point marché. La visibilité, c'est fini et c'est fini tout le temps où il sera là, parce qu'il pourra toujours sortir un truc de derrière les fagots. Donc pendant 4 ans, il n'y a plus de visibilité. En revanche, la confiance n'est pas brisée. Voilà. Louis, une réaction?
Oui, bah, peut-être même pour combiner cela avec des points dont on avait parlé précédemment. Oui, la confiance est ébranlée. Bah, quand on a un acteur qui est aussi prominent et qui change de décision du jour au lendemain, bah, lorsqu'on est à la tête d'une entreprise, on n'a pas envie de prendre de décision maintenant. Toutefois, si on devait vraiment avoir ce découplage beaucoup plus long, bah, la solution qui s'offre et qui est un petit peu le chemin qu'on est en train de prendre au stade actuel, c'est justement ces petits pays. Qui sont comme le Vietnam qui disait bah, moi, mon objectif, c'est d'arriver à 0% de tarif. Moi, il n'y a pas de problème, je récupère toute la chaîne de production chinoise et j'exporte aux États-Unis. Les deux qui sont en train d'émerger, les deux pays, c'est le Vietnam et le Mexique. Le Mexique également s'en sort très, très bien vis-à-vis des tarifs douaniers. Et ces deux pays, bon, ça va prendre du temps, mais qui facilement ont déjà des infrastructures pour pouvoir produire de l'électronique du Vietnam ou produire des biens manufacturés ou d'automobiles depuis le Mexique. Donc il y a des solutions qui s'offrent tout de même aux entreprises américaines face à ce choc qui se pose à nous à court terme.
Alors, juste une toute petite question pour vous avant qu'on passe à la parole à Lucas. Et j'ai envie de dire ce qu'a dit David sur le dollar, c'est bien vrai. Il fallait que ça arrive à un moment ou à un autre. Est-ce que la question de créer une part hedgée est une question qui est ouverte chez vous ou c'est une question que pas à l'ordre du jour pour aujourd'hui?
C'est quelque chose dont on nous a parlé historiquement, mais on n'a pas eu jusqu'à présent la volonté de client d'être véritablement investi là-dessus. Encore une fois, parce que historiquement, le dollar avait joué son rôle de réducteur de volatilité. Certes, ça n'est pas le cas en ce début d'année, mais on ne peut pas exclure que, bah, comme le disait David, qu'il pourrait y avoir une performance un peu plus découplée entre l'évolution du dollar et l'évolution des actifs américains. Donc, à ce stade, on reste sur la formule actuelle.
Ok. Allez, Lucas, une réaction de votre part et après on passera la parole à Philippe.
Bah, tout à fait d'accord hein, sur ce qui a été dit par rapport notamment à la visibilité. Après, sur la confiance, c'est aussi ce qu'on ressent de la part des gens. C'est-à-dire que nous, on voit qu'il y a une vraie crainte et il y a une recherche absolue d'aller, ce que je disais au départ, hein, c'est une volonté d'aller chercher de la stabilité là où il peut y en avoir. Donc, c'est à ce titre-là que nous, on a des demandes, par exemple, sur le Luxembourg, parce que Luxembourg, pays faiblement endetté, triple A. La partie assurance vie aussi, tout ça, on sent vraiment cette crainte par rapport à ça des gens. Et donc moi, c'est vraiment là-dessus où j'insiste, parce que on le voit hein, sur le premier mandat de Trump, il avait eu une résistance finalement en interne. Il avait été marqué aussi parce il avait eu des trahisons, ce qu'il lui avait ressenti comme des trahisons avec des gens qui avaient évolué, qui avaient changé. Sur son deuxième mandat. Il a fait en sorte d'éliminer une partie des contre-pouvoirs qu'il pouvait avoir. Il a placé des gens de très proches à lui. Et derrière, aujourd'hui, la problématique, elle est plus au niveau international. Et il a une résistance peut-être un peu plus qu'on évoquait tout à l'heure au niveau international. Et c'est là où il essaye. C'est un businessman au final. Donc, c'est-à-dire qu'il va pousser jusqu'au maximum et voir jusqu'où il peut arriver en fait. Et donc, voilà, c'est ce qu'on voit. Et donc, c'est ce qui crée vraiment cette instabilité et qui crée que les gens, ont une crainte par rapport à ça et vont vraiment aller rechercher là où ils peuvent trouver une stabilité.
Philippe, une remarque?
Oui, bah c'est vrai que ce manque de visibilité, bah, je pense qu'il est amené à rester pendant un petit moment maintenant. Après, c'est aussi des phases où il y a des opportunités. Je pense que on a tous vu en fin d'année dernière tous les flux aller donc gérer des stratégies américaines, enfin des actions américaines, parce que c'est ce qui fonctionnait. Aujourd'hui, bon, on voit un retour, voilà, un petit peu quand même une surperformance de l'Europe. Je pense que c'est quand même un petit peu amené à durer. On voit aussi que d'autres zones géographiques comme l'Amérique latine, bah, fonctionnent très bien, comme ce que disait lui tout à l'heure. Dans World Equity Growth, on a quand même une vingtaine de pourcents sur ces pays-là. Donc, c'est aussi des phases où va y avoir des opportunités, il va falloir les saisir. Je pense que c'est aussi cette volatilité sur les marchés offre des points d'entrée qu'on n'avait pas forcément par le passé. Et donc, c'est vrai que pour des investisseurs qui sont complètement sortis, qui sont sortis en partie des actions, ça peut être aussi un moment pour réinitier des positions.
Alors, David, on revient à vous. Et on va réagir sur ce que nous a dit Philippe, cette histoire de point d'entrée-là. Alors, ça, automatiquement, quand on vend des fonds et des choses comme ça, il y a toujours quelque chose à dire. On ne peut pas dire, bon, allez, laisse tomber, viens pas sur mon fonds, ce n'est pas le moment. Donc, ce point d'entrée, c'est aussi vite que ça qu'il faut avoir cette notion du point d'entrée, cette réalité du point d'entrée, ou alors il faut aller complètement dans l'excès inverse et attendre qu'un plan soit officiellement annoncé pour sortir du problème dans lequel on est, et c'est là que c'est le point d'entrée. Et qu'est-ce que vous faites, vous, comment vous cherchez vos points d'entrée dans cette partie multigestion de vos clients? Puisque quand on est dans de l'offensif, c'est toujours assez facile, on est offensif, mais quand on est dans de l'équilibré, je vends des obligs, j'achète des actions, je vends de l'Europe, j'achète de l'US, je couvre mes portefeuilles. Allez, parlez-nous un petit peu de ces points d'entrée.
Alors, je vais vous dire comment on a décidé de fonctionner chez Sanson Longchamp. Quand on a regardé le problème de l'exposition aux actions, finalement, il n'existe que deux méthodes. Soit c'est la méthode de momentum, c'est-à-dire vous regardez la tendance et vous suivez cette tendance en disant qu'il y a du momentum et donc ça va vous porter plus loin. Et donc, il faut d'abord attendre que les marchés montent et là vous vous dites, ça y est, c'est en train de monter, hop, j'achète à ce moment-là dans l'espoir d'aller encore plus haut. Les marchés commencent à baisser. Une fois que ça a baissé, vous commencez à vendre en disant, ah, les marchés vont aller plus bas, etc. La deuxième méthode, c'est la méthode contrariante. La méthode contrariante, c'est quand ça baisse, vous rachetez. Quand ça monte, ça vend. Donc, vous avez toujours un petit peu l'impression d'être en décalage. Nous, c'est cette deuxième méthode qu'on a prise chez Sanson Longchamp parce que c'est une méthode qui nous permet, j'ai envie de dire, de préparer le coup d'après. Et vous savez, dans les marchés financiers, on est toujours dans l'anticipation. Et donc, quand les marchés sont euphoriques, nous, on a tendance toujours, alors quand on dit à vendre, c'est écrêter les positions, hein. On ne fait pas du 0-100, on ne fait pas bouger les allocations de manière extrême. Mais petit à petit, progressivement, plus les marchés montent, plus on va mettre en place des couvertures, et plus les marchés baissent, plus on va les retirer. Il n'y a pas de conviction sur le thème, ça y est, je suis sûr qu'on a trouvé le point bas du marché, etc. En revanche, si on n'achète pas les actions quand elles sont en baisse de 20%, à quel moment vous les achetez? Moi, je ne sais pas trop répondre à ça. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on a des baisses comme ça, des mouvements de moins 20%, qui sont des mouvements extrêmement significatifs, nous, c'est là où généralement on remet un peu d'argent au travail. C'est probablement pas le point bas. Peut-être qu'on peut aller encore 10% plus bas. C'est pour ça qu'on ne fait pas 0-100, hein, c'est pour ça qu'on fait des paliers. Mais nous, dans nos gestions, on en est à notre deuxième palier de réinvestissement. Voilà. Parce que les marchés ont commencé à baisser depuis le 19 février dernier. Et donc là, en ce moment, on a des portefeuilles qui sont plutôt bien exposés. Pourquoi on les a bien exposés maintenant? Encore une fois, je ne sais pas si ça va rebondir demain, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez vu la violence de la réaction du marché lorsque Trump a dit, allez, on repousse de 90 jours. C'était des mouvements monstrueux. C'est 12% avant d'avoir eu le temps de dire ouf. Donc j'ai l'impression que si on attend qu'il y ait un plan et que le sujet soit réglé, est-ce qu'on ne va pas finalement rater une énorme partie de la hausse? Faut voir. Ça dépend de votre horizon de temps. Si vous avez du temps devant vous, investir en ce moment, finalement, ce n'est pas plus mal.
Ok, allez, lui, vous avez la parole pendant 1 minute. On vous laisse conclure. Donc, vous avez un petit peu tout entendu. Vous nous avez beaucoup parlé de vous, de votre société, de votre fonds. Allez, vous avez 1 minute. Libre à vous. Faites votre conclusion. Faites notre conclusion.
Même son de cloche de notre côté, on pense que voilà, c'est probablement pas le point bas, mais il y a des motifs d'espoir, comme je le disais un petit peu plus tôt. Il y a une relance monétaire qui est mondiale qui a été enclenchée en 2024, et il y a une relance de la part de la Chine qui est faite aussi bien sur le plan monétaire que sur le plan fiscal, enclenchée elle aussi depuis l'été 2024. Au bout d'un moment, ce genre de choses se fait ressentir. Bien souvent, vous avez peut-être un an d'attendre avant que ça se fasse ressentir. Donc peut-être que la deuxième partie, ou en tout cas peut-être la toute fin d'année 2025, sera bien plus favorable sur le plan macroéconomique de ce fait-ci.
Eh ben, c'est super, il me reste plus qu'à vous remercier, à vous tous vous remercier. La partie marché est maintenant finie. On va passer à la partie fiscalité. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été parmi nous. Merci d'être venu et à très vite. Au revoir.
Merci Bernard.
Merci, au revoir.
Merci.
Merci Bernard, au revoir.